VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 15 juin 2016. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Arnold Botson. Tout d'abord, les titres.
Au Congo-Brazzaville, le général Mokoko a été placé en garde à vue.
Dialogue politique au Congo-Kinshasa, le facilitateur Edem Kodjo annonce la mise en place d'un groupe de soutien à la facilitation.
Au Tchad, évasion de deux des fils de dignitaires du régime, accusés du viol d'une jeune lycéenne en février dernier à N'Djamena.
Washington exprime de sérieuses inquiétudes sur la situation actuelle à la frontière entre l'Éthiopie et l'Érythrée.
Le président Barack Obama fustige la rhétorique incendiaire du candidat républicain Donald Trump sur les musulmans.
Et ne manquez pas le journal de l'Euro 2016 ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Congo, le général Jean-Marie Michel Mokoko a été retenu par la Direction générale de surveillance du territoire après son audition qui avait débuté hier à 11h, heure locale. Assigné à résidence depuis quelques semaines, le général Mokoko conteste la réélection du président Denis Sassou Nguesso. Éric Manirakiza a joint dans la capitale congolaise Guy Romain Kinfusia, vice-président et porte-parole de la plateforme Frocade UDC, la coalition de l'opposition dont M. Mokoko est membre.
Il est allé pour être auditionné sur l'affaire que tout le monde sait et normalement il devrait rentrer chez lui, mais ce n'est pas le cas. Il est retenu à la direction générale de la surveillance du territoire. Ça ne correspond pas à une arrestation au vrai sens du mot, mais il n'est pas libre de ses mouvements. Nous allons voir quelles sont les nouvelles que la DGST va nous donner. Mais il n'est pas rentré chez lui.
Et quelles sont les charges qui sont retenues contre lui?
Je ne peux pas vous le dire. Je rappelle simplement que Jean-Marie Mokoko a été candidat à la présidence de la République et que pour être candidat, il faut avoir un casier judiciaire vierge. Et celui qui en est le garant, c'est la Cour constitutionnelle. Bon, nous savons que cette Cour constitutionnelle est aux ordres. Mais au moment où la Cour constitutionnelle a donné son avis sur les candidatures déposées, l'affaire qu'on reproche aujourd'hui à Jean-Marie était déjà initiée et la Cour constitutionnelle n'a pas estimé important de considérer cette affaire qui était vide. C'est pour ça qu'il lui a donné l'autorisation d'être candidat. Nous sommes surpris aujourd'hui, l'élection présidentielle étant passée, que le candidat Jean-Marie-Michel Mokoko ayant obtenu le score que tout le monde sait, qu'on vienne lui demander de reconnaître la victoire de Denis Sassou Nguesso. Ce à quoi il se refuse. Je crois que c'est ça le motif principal. Mais ce n'est pas l'affaire de la vidéo qui date de 2007. Nous avons juste la possibilité de faire des recours les plus légaux qui soient pour que Jean-Marie Mokoko retrouve toute sa liberté parce que ce monsieur, de mon point de vue, n'est coupable d'aucun délit.
Guy Romain Kinfusia, joint à Brazzaville.
Dialogue politique en RDC, de l'autre côté du fleuve, le facilitateur Edem Kodjo annonce la mise en place d'un groupe de soutien à la facilitation qui sera composé des organisations internationales et aussi de l'ambassadeur de l'Union africaine. Edem Kodjo a par ailleurs annoncé qu'il se rend à Bruxelles pour y rencontrer quelques opposants qui ont pris part au récent conclave de l'opposition, notamment Étienne Tshisekedi. On écoute Edem Kodjo au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Les gens estiment que le facilitateur a été trop patient, mais je crois d'abord que la qualité première d'un facilitateur, c'est la patience. Comme le grand poète antillais Aimé Césaire l'a dit, j'ai une patience à boire toutes les eaux du Congo. Donc, il faudra que tout le monde mette de l'eau dans son vin pour qu'on aille de l'avant. Je vais faire un déplacement à Bruxelles pour, une fois de plus, m'assurer que tout est mis en œuvre pour que nous démarrions les travaux du comité préparatoire. On n'a pas fini de parler de la même chose indéfiniment. Alors, il faut toujours remettre sur le métier l'ouvrage qu'on a commencé si cet ouvrage n'est pas achevé. Donc, il n'y a pas de honte à essayer une fois de plus. Nous verrons bien ce qu'il y a lieu de faire après. Mais je ne souhaite pas que les positions se figent et se cristallisent autour de pôles irréductibles. Mais je souhaite que plus de mou soit apporté dans les différentes positions que l'on exprime ici et là.
Le facilitateur Edem Kodjo du Congo, de la République démocratique du Congo.
Au Tchad, on a appris hier que deux des fils des dignitaires du régime au pouvoir qui ont violé une jeune lycéenne en février dernier à N'Djamena se sont évadés de la maison d'arrêt où ils avaient été incarcérés en attendant leur jugement. De nombreuses manifestations avaient été organisées à cette époque dans la capitale et le procureur général de la cour d'appel de N'Djamena avait annoncé l'ouverture d'une information judiciaire, de même que de l'arrestation de 5 personnes, dont les 2 qui aujourd'hui se seraient évadées. John Lindon a joint Tourm Djourman Laïbé, président par intérim des droits de l'homme sans frontières à N'Djamena, qui a confirmé « Malheureusement, la mauvaise qualité de la liaison téléphonique ne nous permet pas de vous le faire entendre. Toutes nos excuses à M. Laïbé. »
Les députés bissao-guinéens se sont brièvement réunis hier, après quasiment 2 mois d'interruption, en raison d'une crise entre le président José Mario Vaz et le chef de son propre parti, Domingos Simoes Pereira. Idriss Fall.
C'était la première séance de l'Assemblée depuis le 19 avril, mais aussi la dernière session parlementaire. Elle n'a duré que 10 minutes et il n'y a pas eu de débat. Le vice-président de l'Assemblée, Ignacio Correira, du PAIGC, le premier parti politique, a déclaré que le Parlement est en train de se transformer en un instrument manipulé par une force obscure. Les députés du PRS, parti d'opposition, et les 15 dissidents du PAIGC ont rétorqué. C'est de la dictature. Le président José Mario Vaz compte sur l'opposition et les dissidents pour avoir une majorité alternative soutenant le gouvernement du tout nouveau premier ministre Bassirou Dia. Depuis la destitution par le président Vaz en août 2015 de son premier ministre Domingo Simoes Pereira, chef du PAIGC, dont ils sont tous les 2 membres, la Guinée-Bissau traverse des turbulences politiques qui ont conduit à une paralysie totale de l'Assemblée nationale. Et aucune date n'est annoncée pour la prochaine session parlementaire.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a autorisé hier l'opération navale européenne au large de la Libye à contrôler l'embargo sur les armes imposé à ce pays afin d'aider le gouvernement libyen d'Union nationale dans sa lutte contre les djihadistes et les miliciens.
Les États-Unis ont exprimé mardi de sérieuses inquiétudes concernant la situation entre l'Éthiopie et son voisin érythréen qui sont livrés à de violents combats à leurs frontières ce week-end. Nous appelons les 2 parties à la retenue et à amorcer un dialogue politique, a lancé John Kirby, le porte-parole de la diplomatie américaine, dans un communiqué.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Barack Obama a déclaré hier que l'auteur du massacre dans un bar gay d'Orlando en Floride était un jeune homme en colère, dérangé et instable qui s'est radicalisé. Il parlait d'Omar Sadiki Matin, le musulman américain de 29 ans qui dimanche a tué 49 personnes et en a blessé 53 autres, dont 6 dans un état critique.
Monsieur Obama est attendu demain à Orlando. Il parlait hier après une séance de travail avec ses conseillers sur les événements d'Orlando et les efforts faits par les États-Unis pour vaincre le groupe État islamique. Ce groupe, a estimé le président, était désormais sur la défensive et peinait à recruter des combattants étrangers.
Barack Obama s'en est pris violemment au candidat républicain Donald Trump, qui l'accuse de ne pas vouloir identifier les auteurs d'attentats terroristes de radicaux islamistes et il a aussi fustigé sa rhétorique incendiaire sur les musulmans.
Le président s'est écrié « On a aujourd'hui des propositions du probable candidat républicain à la présidence qui veut interdire à tous les musulmans de venir en Amérique. Jusqu'où cela ira-t-il ? Le tueur d'Orlando, ceux de San Bernardino ou celui de Fort Hood sont tous des citoyens américains », a-t-il rappelé. « Allons-nous commencer à traiter tous les musulmans américains différemment ?»
Des hackers russes ont piraté pendant près d'un an les ordinateurs du Parti démocrate à Washington. C'est ce qu'ont annoncé mardi le Parti démocrate et la société informatique qui a nettoyé le réseau le week-end dernier. Miley Sagel.
Le Washington Post a révélé l'affaire ce mardi. Parmi les données volées figurent des dossiers sur le passé de Donald Trump. Des informaticiens du Comité national démocrate ont demandé à la société de cybersécurité CrowdStrike d'intervenir pour identifier l'ampleur des dégâts et sécuriser le réseau, dont le nettoyage s'est d'ailleurs terminé ce week-end. Selon Dimitri Alperovitch, cofondateur de cette société, 2 groupes russes bien distincts et connus ont pénétré dans les réseaux depuis l'été 2020. 2015. L'un des groupes s'appelle Cosiber. Il a pu intercepter toutes les communications du Parti démocrate et avait déjà réussi à s'infiltrer dans les systèmes de messagerie de la Maison-Blanche en 2014. Toujours selon Dimitri Alperovitch, ces deux intrus exécutent ces missions d'espionnage politique et économique au profit du gouvernement de la Russie et seraient même liés aux services de renseignement russes.
Et pour terminer, les primaires américaines sont terminées après le dernier scrutin tenu hier ici à Washington, la capitale fédérale, et remporté par Hillary Clinton face à son rival démocrate Bernie Sanders. Prochaine étape, les conventions de juillet à Cleveland et à Philadelphie, où les candidats probables des deux partis, Mme Clinton et le républicain Donald Trump, seront investis. Fin de ce journal, vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
On passe à présent au journal de l'Euro 2016, présenté par Bagassi Koura. Bagassi, bonjour.
Oui, bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Match du groupe F ce mardi.
Hier soir, la gloire était pour l'Islande, le petit poussé de cet Euro 2016. Les Islandais ont tenu tête au Portugal de Cristiano Ronaldo, un but partout. De son côté, la Hongrie a battu l'Autriche 2-0. C'est la première fois que la Hongrie participe à la phase finale de l'Euro depuis 44 ans.
Aujourd'hui, les matchs du groupe B.
Oui, la Russie affronte la Slovaquie, la Roumanie, elle, affronte la Suisse et la France jouera son deuxième match contre l'Albanie. Après des débuts délicats mais victorieux, l'équipe de France a l'occasion de se qualifier pour les huitièmes de finale de l'Euro 2016 dès son deuxième match. Pour ça, les Bleus devront s'imposer face à l'Albanie, peut-être la formation la plus faible de son groupe. Notre correspondant à Paris, Christian Mpanzu, nous explique comment les Bleus abordent ce match.
La qualification, c'est le mot d'ordre répété par Didier Deschamps à ses joueurs. Lors des différentes séances d'entraînement, le sélectionneur des Bleus a insisté sur ce détail. Les trois points de la victoire face à l'Albanie qualifieraient la France pour les huitièmes de finale avant même le troisième match des phases de groupe. Deschamps a aussi demandé à ses joueurs d'oublier la pression qu'ils ont ressentie lors du match d'ouverture, d'être plus spontanés. Plusieurs joueurs semblaient très crispés contre la Roumanie. Deux d'entre eux ont particulièrement été critiqués, Antoine Griezmann et Paul Pogba. Et d'après quelques indiscrétions glanées lors des oppositions à l'entraînement, Griezmann et Pogba pourraient débuter sur le banc. Kingsley Coman est pressenti pour prendre la place de Griezmann. Et Moussa Sissoko intégrerait le 11 de départ en lieu et place de Paul Pogba. La France reçoit l'Albanie à Marseille, où la ferveur sera sans doute au rendez-vous. Plus de 67 000 personnes sont attendues dans les tribunes. Depuis Paris, Christian Mpanzu pour VOA Afrique.
Lundi, l'Italie a écrasé la Belgique 2-0. Une vraie démonstration de force. C'est le coup de sifflet de Jules Valentin Gouet.
La sagesse populaire le répète, les grandes équipes ne meurent jamais. S'il y a une formation pour laquelle s'applique cet adage depuis lundi, c'est bien la squadra azzurra d'Italie. Dans le choc des matchs de poule qui l'opposait à l'équipe la plus redoutée du tournoi, celle des Diables Rouges de Belgique, le quadruple du champion du monde a déjoué tous les pronostics et même récupéré, par la qualité de sa production, le statut de favori qu'il avait perdu, l'équipe étant jugée en phase de reconstruction. Ce qui a le plus marqué les esprits, c'est que la formation transalpine a marqué sur ses fondamentaux habituels. Point de vue prudent, de faux rythme, de provocation, de contre-sporadisme. L'Italie n'a pas pourri la rencontre, mais au contraire, elle a décidé de jouer. La capacité de l'équipe à développer un jeu collectif et spectaculaire tourné vers l'attaque, la solidarité et l'homogénéité du groupe, l'utilisation des ailes et la lucidité, la précision des attaquants dans les actions finales ont tétanisé une équipe belge surprise par le niveau de l'adversité. L'Italie vient de lancer le premier missile dans le ciel jusque-là serein de l'Euro. Nul doute qu'il a été aperçu. À demain.
Merci, c'était le journal de l'Euro.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Ici aux États-Unis, Hillary Clinton, candidate démocrate à la Maison-Blanche, a fustigé le rôle de l'Arabie Saoudite, du Qatar et du Koweït dans le financement mondial de l'idéologie extrémiste. Madame Clinton a tenu ses propos au lendemain de l'attentat d'Orlando dans l'État de Floride, attentat qui a coûté la vie à 49 personnes. Ces trois pays font pourtant partie des alliés des États-Unis. Pour analyse, Eric Manirakiza a joint l'ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique, l'ambassadeur Herman Cohen.
J'ai été pas surpris parce que déjà, nous avons commencé à voir dans les journaux comme le New York Times des articles qui parlent du financement du terrorisme. Mais il faut pas croire que ce sont ces gouvernements qui financent le terrorisme. Mais il y a des hommes d'affaires, des gens riches dans ces trois pays-là qui font ça. Ils financent le terrorisme, ils donnent du cash. Et Mme Clinton parle surtout de ça. Ils regardent, les gens continuent à faire ça et les gouvernements ne font rien. Donc, c'est une mauvaise situation.
Elle a dit ces trois pays et d'autres devraient cesser de soutenir les écoles et les mosquées radicales qui ont conduit trop de jeunes sur le chemin de l'extrémisme dans le monde.
Oui, elle a raison de dire ça. Moi, j'ai vu ça en Afrique de l'Ouest, où j'ai passé certaines années dans ma carrière comme diplomate. Les missionnaires d'Arabie Saoudite ou de Qatar, ils viennent là-bas, ce sont des pays musulmans, et ils disent aux imams, votre islam n'est pas bon, il faut que vous soyez comme nous. Et ils donnent de l'argent pour la construction des mosquées, et ils envoient des imams, et c'est comme ça que la radicalisation commence. En Afrique de l'Ouest, les musulmans sont très tolérants. Ils célèbrent le Noël même. Mais quand ces gens viennent de l'Arabie Saoudite, ils radicalisent les imams, ils donnent de l'argent. Donc, c'est très dangereux, ça.
Est-ce que vous pensez, une fois à la Maison-Blanche, qu'elle aura, disons, des moyens de faire appliquer cette position?
J'ai vu que les journalistes ont posé des questions au président Obama. Il a dit que c'est compliqué. C'est-à-dire que ces pays-là sont des alliés au Moyen-Orient. Ils luttent contre les rebelles au Yémen. Ils luttent contre le président de la Syrie. Donc, ils sont nos alliés. Donc, c'est difficile de critiquer nos alliés. Ils donnent de l'argent pour aider certains groupes que nous aidons. Ils achètent nos avions. Ils payent beaucoup d'argent. C'est très difficile. Je crois que ce sera au prochain président de trancher là-dedans. Et c'est possible que ce sera Hillary Clinton.
Quelle est l'approche qu'elle devra adopter?
Je crois qu'il faut commencer à être dur avec ces gens-là. Ces pays existent sous la protection des États-Unis. Ils sont en danger. C'est une région dangereuse parce qu'il y a l'Iran qui est un pays chiite, qui n'aime pas les soumis. Donc il faut qu'on commence à être dur avec ces gouvernements.
Herman Cohen, joint à Washington, D.C.
Jacques Aristide avec vous au menu de Washington Forum ce jeudi. L'attentat d'Orlando et toutes les questions qu'il suscite. Omar Mateen a-t-il tué à la fois par haine de l'Occident et par homophobie? Quels étaient ses liens avec les groupes djihadistes? La tuerie est-elle un exemple du terrorisme intérieur? Quel impact sur la campagne présidentielle et le débat sur le contrôle des armes à feu aux États-Unis? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum ce jeudi à 19h10.
Au Niger, moins de trois mois après sa réélection, le président Issoufou Mahamadou a réorganisé son cabinet civil. C'est ainsi que la cellule communication présidentielle va être dirigée par son fils Sani. Ancien étudiant de Harvard et diplômé en technologie de l'information et de la communication, le jeune de 32 ans a déjà piloté la campagne numérique de son père, alors candidat. Issoufou Mahamadou innove ainsi et devient le premier président nigérien à nommer son fils à de telles fonctions, nous dit notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Maman Sani Issoufou Mahamadou n'est pas très connu des Nigériens, mais sa récente nomination aux côtés de son père, le président de la République, comme principal conseiller en communication, l'expose du coup au grand public. Népotisme et volonté cachée d'instauration d'une monarchie soupçonne-t-on dans les milieux de l'opposition. Ibrahim Hamidou, du MNSD Nassara.
Il n'y a pas longtemps, le même Mahamadou Issoufou avait crié que le président Tandja voulait instaurer une monarchie au Niger parce que juste un de ses enfants a été suppléant d'une candidate à la députation. C'est même pas une nomination, c'était un mandat électif. Ça a suffi à Issoufou pour dire que Tandja avait instauré une monarchie.
Pour certains citoyens également, au-delà peut-être du mimétisme avec d'autres chefs d'État, bien d'autres raisons se cachent derrière cette décision du président Issoufou Mahamadou.
On a vu Karim Keïta au Mali, on a vu Karim Ouad au Sénégal, mais est-ce que c'est dans les mêmes conditions? Parce que ici, les rumeurs circulaient comme quoi c'est pour échapper à des interpellations.
Je vois mal quel conseil le père va-t-il prendre de son fils. Parce que de toute façon, le père a autorité sur son fils. Moi, je pense que c'est ça le problème. C'est le conflit d'intérêts et que ça, ce n'est pas bon.
Positivement plutôt, la nomination de celui qui est appelé communément ici Abba, d'autres Nigériens y voient par contre la consécration d'un parcours académique singulier.
Je crois que ce n'est pas une mauvaise chose, puisque c'est un jeune, donc il est apte pour gérer cette cellule.
C'est un garçon qui a eu un très bon cursus. Il a fréquenté la plus prestigieuse université du monde, l'université de Harvard. Je ne vois aucun inconvénient. Je ne vois que du bien pour ce pays.
S'il peut améliorer l'image de son président, quelque part, en soi, c'est une bonne chose et ce n'est pas mauvais en soi.
Au sein du parti de son père, la nomination du fils était attendu, souligne Boubacar Sabo, membre du comité exécutif national.
C'est lui qui a dirigé la campagne numérique de notre parti et du candidat Mahamadou Issoufou en 2011. Abba a été nommé, il n'a pas été imposé à un poste de l'administration. Et je pense qu'il l'a nommé parce qu'il est efficace. En tout cas, nous, on a vu son efficacité par rapport à la communication pour tout ce qui est nouvelle technologie de l'information.
Donc ça fait longtemps qu'il communiquait pour son papa.
En tout cas, il communique, il sait qu'il a communiqué en 2010-2011. Il a communiqué au cours de cette campagne aussi.
C'est une récompense alors?
C'est pas une affaire de récompense, c'est que c'est une question d'efficacité et de compétence. On a dit qu'il peut faire le travail.
Âgé de 32 ans et diplômé en nouvelles technologies de l'information et de la communication, Maman Sani Issoufou Mahamadou a également étudié l'économie de développement à l'université de Birmingham en Angleterre. La dernière université qu'il a fréquentée est celle de Harvard aux États-Unis d'Amérique, où il est sorti avec un diplôme en sciences politiques. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
VOA Afrique au Niger à Niamey, 24 heures sur 24 sur 102.5 FM.
Au Tchad, ce mercredi 15 juin 2016 marque le premier anniversaire du double attentat de kamikaze perpétré au cœur même de la capitale tchadienne par la secte Boko Haram. Un an après ce triste anniversaire, on se souvient. De N'Djamena, André Konmadjingar.
Ce 15 juin, c'est une journée qui va me marquer toute ma vie. J'en garde un mauvais souvenir.
Commissaire Ngemadjita Tadi Orbe, un des rescapés de l'attentat suicide du 15 juin 2015 devant le commissariat central de la ville de N'Djamena, se rappelle de cette journée cauchemardesque. Une journée pas comme les autres, car ce double attentat simultané faisant 34 morts, dont 3 kamikazes et 105 blessés, a traumatisé toute la population. Attentat suicide revendiqué par la nébuleuse Boko Haram en réponse au déploiement des soldats tchadiens en janvier de la même année pour lutter contre cette organisation aux côtés des forces armées nigérianes, camerounaises et nigériennes. Commissaire Ngemadjita Tadi Orbe nous raconte comment il a échappé à la mort.
Je ne devais plus être de ce monde parce que lorsqu'il a lâché sa charge entre moi et là où le kamikaze a sauté, il y avait un véhicule. C'est ce qui a eu à me protéger. J'ai eu une blessure au niveau du flanc gauche. C'est un éclat que j'ai reçu lorsque le kamikaze a lâché sa décharge. Imaginez quelqu'un qui sort de la maison bien portante et qu'il revienne en mini morceaux dans sa famille. Dieu merci, je suis un croyant. La voix m'a sauvé.
Une dame qui a perdu son fils, élève policier, dans l'autre attentat suicide le même jour dans les locaux de l'école de police, se rappelle également cette triste journée du 15 juin 2015.
Je m'appelle Elisabeth Kouago. J'ai perdu mon fils, Ezaï Kemti, âgé de 24 ans, dont je prie pour le repos de son âme. Je ressens toujours la douleur.
L'État nous a parlé qu'il va nous prendre en charge, jusqu'à là, on ne voit rien. Il nous a parlé même des remplacements numériques. Jusqu'à là, la promesse n'est pas tenue.
À la veille de ce triste anniversaire, les autorités communales ont décidé de réglementer l'heure de fermeture de tous les marchés urbains jusqu'à nouvel ordre. Ali Haroun est le maire de la ville.
Il faut toujours être vigilant. Une fois de plus, pour cette année 2016, nous allons demander l'indulgence des habitants et habitantes de la ville de N'Djamena. À partir de 17h30, tous les marchés dans l'étendue de la capitale de N'Djamena doivent être fermés jusqu'à la date où nous vous dirons. C'est pour notre sécurité.
Ensemble, le Tchad a enregistré de juin à décembre 2015 10 attentats kamikazes et un en 2016 avec plus de 170 morts, dont 25 kamikazes et plus de 470 blessés. André Kodumadjingar, N'Djamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad, 24h sur 24, 93.1 FM.
Et maintenant, la Minute Éco avec John Linden.
Au Sénégal, la centrale électrique du Cap des Biches à Rufisque a officiellement été remise en service lundi dernier. Elle est actuellement dotée d'une capacité totale de 53 MW et une extension de 30 MW est prévue en septembre. Cette centrale était hors service depuis 2007. 3,6 milliards de francs CFA, c'est le montant de la convention de financement entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. Cet appui financier devrait permettre d'améliorer les conditions environnementales des productions et la qualité de vie des travailleurs, mais aussi de développer le marché local et sous-régional de la banane. La BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, devrait avoir un nouveau gouverneur dès le 10 janvier prochain. Le remplaçant de Lucas Abagan Tchama sera désigné par les chefs d'État de la zone CEMAC lors de leur prochain sommet. C'est au président Idriss Déby Itno et au nom du principe de rotation qu'il reviendra de proposer 3 candidats comme l'exigent les statuts de la BEAC.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de VOA Afrique. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-92-85-40. Je répète, 225-58-92-85-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Don't need permission, made my decision to test my limits. Cause it's my business, God is my witness, stop what I finished. Don't need no holder, taking control of this kind of moment. I'm locked and loaded, completely focused, my mind is open. All that you got's gonna skip. Proving, I'm bulletproofing, know what I'm doing. The way we're moving, like introducing us to a new thing. I wanna save it for later. The taste of flavor, cause I'm a taker, cause I'm a giver. It's only nature, I live for danger. All that you got, skin to skin.
Something about you makes me feel like you're dangerous for me. Something about you.
VOA Afrique en direct de Washington, c'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydoudia à Washington, bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.